Les ravages des taux d'intérêt, les ravages de la valeur absolue atteinte par les taux d'intérêt sur l'immobilier, sur les banques régionales américaines, et bien sûr, une diffusion qui semble tarder au secteur de l'économie réelle traditionnelle, le secteur des services et le secteur industriel. Et dans tout ça, face à ces taux d'intérêt, à cette nouvelle courbe des taux d'intérêt, le marché action est-il déconnecté de la réalité ? Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Bienvenue. Oui, j'ai utilisé un titre un peu fort, les ravages des taux d'intérêt. Mais bien quoi, nous sommes après une semaine qui a vu la résurgence de la crise bancaire aux États-Unis, et ce n'est pas rien, qui a vu Moody's, une agence de notation très respectée, dégrader plus d'une dizaine de banques régionales américaines parce que leur bilan est en situation difficile du fait de cette remontée verticale des taux d'intérêt, qui a vu les banques annoncer une hausse, les banques régionales américaines. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les banques régionales représentent environ 60, elles gèrent 60 à 65% des consommateurs américains de l'offre de crédit en cours. Eh bien, qu'est-ce que ces banques régionales ont annoncé ? Une hausse de 75% des taux de défaut. 75% en un an de défaut sur quoi ? Eh bien, sur leurs clients qui font des crédits court terme via les crédits dits cartes de crédit, ou même vis-à-vis des emprunteurs immobiliers à taux variable. Les défauts commencent à exploser et donc c'est de l'argent que les banques ne vont pas récupérer. Alors, la semaine dernière, cette actualité autour des banques régionales américaines a relancé le débat, le fameux débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis. À un moment où le marché action, oui, alors oui, c'est ça la vraie question. Vous savez, là, dans cette vidéo, nous allons traiter plein de sujets. Alors, oui, les ravages, le mot peut sembler un peu fort, mais regardez l'immobilier. Regardez ce qu'annoncent certaines banques. Certains secteurs sont déjà ravagés ou bloqués ou gelés par la nouvelle courbe des taux d'intérêt. Eh bien, moi j'estime que plus que jamais, il est temps de rééquilibrer son portefeuille boursier. Alors non pas d'abandonner les actions, mais de rééquilibrer son portefeuille boursier en faveur des obligations. Pas forcément de couper toutes les actions, car effectivement, la tendance haussière sur le marché actions, elle est là depuis octobre dernier, elle est là depuis le début de l'année, même si depuis fin juin, il y a des prises de bénéfices et qu'on retrace. Rien n'indique avec certitude encore sur le plan chartiste que cette phase haussière soit terminée. C'est peut-être simplement encore une période de retracement avant d'aller chercher les records du SP500. Par contre, sur les stars de la tech, vraiment, ça retrace. Là, on avait réatteint les records de décembre 2021. Donc, il y a énormément de sujets ici que j'ai envie de traiter avec vous. Mais tout va se centrer sur ces taux d'intérêt, alors qui ont un effet extrêmement négatif sur certains secteurs de l'économie. Après, voilà, bon, le mot peut sembler un peu fort, mais nous sommes ici, c'est une discussion entre vous et moi. Nous pouvons parler librement, poser des arguments. Et oui, bien sûr, il faut plaire aussi à notre hôte Swissquote. Donc, comme d'habitude, pour plaire à notre hôte Swissquote, pour vous plaire d'abord, et puis plaire à notre hôte commun, qui, j'espère, mettra un like comme vous. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Alors, j'ai préparé quelque chose de construit. Alors, tout d'abord, je vais revenir avec vous un mot rapide sur... Oui, car en plus de la résurgence de la crise bancaire américaine la semaine dernière, avec des datas concrètes, qui a relancé le débat sur la probabilité d'une récession aux États-Unis... Un mot sur l'inflation, car c'est le second sujet, mais qui revient, car il y aurait au même moment une seconde vague d'inflation. Vous imaginez le schmilblick ? On commence à réaliser les effets désastreux de la valeur actuelle des taux d'intérêt sur certains compartiments de l'économie. Mais alors, vous imaginez si, en plus, du fait, pour le moment, du rebond du prix du pétrole depuis fin juin, s'il y avait une seconde vague d'inflation ? La semaine dernière a vu la mise à jour du CPI, du PPI. Moi, j'estime que non, j'estime que c'est conjoncturel. J'ai traité le sujet du pétrole dans le Fast and Forex la semaine dernière. Je vous invite à le reprendre. J'estime que c'est conjoncturel. D'ailleurs, l'inflation sous-jacente, elle, qui est encore certes l'inflation sous-jacente qui exclut les éléments volatiles comme le prix de l'énergie, de l'alimentation, elle reste quand même dans une phase de repli, même si elle est largement au-dessus encore des objectifs des banques centrales, les fameux 2%. Mais voilà, moi, j'estime que cette seconde vague d'inflation n'est pas là. C'est un rebond de l'inflation, peut-être jusqu'à septembre, octobre, du fait d'éléments de base. La contribution du pétrole, le pétrole ayant rebondi, sa contribution n'est plus négative à l'inflation, elle n'est plus désinflationniste, parce qu'on compare entre septembre, août-septembre 2023 à août-septembre 2022, maintenant, c'est à peu près les mêmes prix, donc c'est normal, hein, on n'est plus aux $120, donc c'est ça un effet de base, ça va retomber. Alors oui, alors, le prix du pétrole, l'aspect géopolitique, J'ai traité le sujet dans le Fast and Forex. On va pas en parler trop dans cette vidéo. Donc, la résurgence de la crise bancaire a relancé le débat sur la probabilité d'une récession. Ça tombe bien, cette semaine, vous avez les deux plus gros, allez, deux sur trois, les deux parmi les plus importantes statistiques américaines pour juger justement de la croissance économique. Vous savez que le PIB américain, c'est 80% de la consommation des ménages. Et la consommation, eh bien, vous avez cette semaine la mise à jour des ventes au détail aux États-Unis. Pour la partie consommation, vous avez aussi la mise à jour du taux de croissance annuel de la production industrielle aux États-Unis, sachant que ces deux baromètres tutoient le zéro. Même la production industrielle est devenue négative. Je vous fais apparaître les graphiques. C'est majeur, en fait. La question que tout le monde se pose. On a bien compris que l'immobilier est au tapis. Alors, pas forcément les prix, parce que les vendeurs lâchent rien. Mais les transactions au tapis, à cause des taux. Très bien. Les banques, parmi celles qui ont le bilan les plus fragiles, au tapis, en tout cas des pertes énormes. D'ailleurs, il y a déjà eu un plan de sauvetage de la Fed en mars dernier. Hein. Moody's a dit que d'autres dégradations allaient venir. Pourquoi ? Parce qu'en face, l'argent qu'elle a prêté, si en face vous avez des emprunteurs à taux variable qui ne peuvent plus rembourser, ça c'est une perte pour la banque. Et alors, imaginez si bientôt le taux de chômage augmente. Et que la personne en face qui déjà a son taux variable, elle ne peut plus gérer, si en plus elle perd son emploi, ce que je ne le souhaite pas. Vous imaginez pourquoi ce débat sur la probabilité, ce débat sur la contagion, la diffusion de ce qui se passe en immobilier et sur les banques, si ça devait se passer dans le secteur des services, qui est très varié, ou même dans le domaine industriel, c'est chaud. Et dans tout ça, alors le marché action, il peut sembler complètement déconnecté. Pire. Malgré ce contexte, malgré l'actualité sur les banques, les anticipations de bénéfices sont encore complètement perchées. Alors, qui est perché ? Les anticipations de bénéfices ou le raisonnement des analystes financiers ? La Banque d'Angleterre a dit récemment qu'on éviterait de justesse la récession. Ils ont peut-être raison. Peut-être que l'économie aura cette capacité à s'adapter à ces taux d'intérêt qui ne sont plus à zéro. Qui étaient, au fond, l'excès, c'était ça. C'était les taux zéro. C'est pas les taux à 4 ou 5, l'excès. C'est des taux à zéro. Voilà. Donc peut-être que l'économie va s'adapter à cette normalisation. Et à ce moment-là, le marché action tiendra. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faut, et vous savez, je le répète, je n'arrête pas d'en parler, l'arbitrage, une partie de votre portefeuille en faveur des obligations, ça fait des mois que j'en parle. Le prix n'a pas bougé. Mais c'est des stratégies de moyen long terme. Peu importe l'action des prix, je suis 1, 2, 3 mois. Moi, je me projette à horizon 3 ans. Je vous dis, dans 3 ans, ça aura fait plus 30%. Ben, ça, c'était que mon avis, encore une fois. Je n'engage pas notre hôte. Je m'engage moi-même vis-à-vis de vous dans le cadre d'une discussion. Et j'essaie d'apporter des arguments. Et puis après, c'est le marché qui tranche. Mais je ne dis pas qu'il faut vendre toutes ces actions pour aller 100% en obligation. Mais là, je veux dire, on sort d'un crack obligataire, elles sont 80% tout en bas, c'est hyper intéressant, on est en phase de bottomisation, on a bien compris que les taux d'intérêt peuvent plus aller vraiment plus haut, parce que sinon ça va tuer l'économie, c'est ce qu'a rappelé la résurgence de la crise bancaire la semaine dernière. Donc la Fed, elle va pas baisser ses taux, mais elle va pas aller monter davantage, par contre elle va les laisser longtemps à un niveau élevé, mais si elle les laisse longtemps à un niveau élevé, le prix des obligations passera plus, vous commencez à toucher votre coupon, et ensuite, lorsqu'on aura la certitude du taux terminal, puis la certitude du pivot, boum, il y aura un méga pump du prix des obligations. Et les actions, on va en parler, les actions, moi je vais vous faire à nouveau un panorama chartiste complet sur l'aspect technique, et je suis pas certain que le bull market soit terminé. Il faudrait casser un support, alors soit 4002, soit 4330 points sur le S&P 500, à voir. Moi je pense plus que ce sera la cassure des 4330 qui mettrait un terme au bull market, mais c'est pas certain. Est-ce qu'on a fini la 3? Est-ce qu'on a fini la 3 ou la B? Est-ce qu'on est plutôt dans la 4 de la 3 ou la vraie grande 4? Bon, on s'arrache les cheveux avec Elliott, hein, mais je vais quand même en parler. Et puis la Chine. La Chine en déflation, ça va se diffuser, ça. Mais alors, même s'il y a une politique monétaire ultra accommodante pour booster tout ça, ça va se diffuser. Par exemple, les indices européens, là, ils bloquent notamment le DAX sous leur record historique, parce que, par exemple, l'Allemagne, elle est archi liée au commerce extérieur chinois. Et là, le commerce extérieur chinois, il chute. Donc, on parle de tous ces sujets, mes amis. Les ravages des taux d'intérêt. Le marché action est-il déconnecté ? C'est parti. Alors, chers amis, je me suis réduit, étant donné que j'ai déjà parlé suffisamment longtemps, on passe directement au vif du sujet. Alors oui, il y a des sous-titres. La récession aura-t-elle lieu ? La guerre de droit n'aura pas lieu. La récession aura-t-elle lieu ? Quoi qu'il en soit, le temps est venu du rééquilibrage entre actions et obligations. Ça, c'est ma conviction. Le plan, je viens de vous le donner. Et donc, on attaque directement la première partie. Le rebond de l'inflation aux États-Unis en juillet n'est pas structurel au stade actuel. Alors, la semaine dernière, on a eu la mise à jour du CPI et du PPI. Alors oui... Oui, le CPI a rebondi. Quelles composantes en sont responsables ? Écoutez, c'est le pétrole. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais que je vais vous remontrer. Je vais un peu vite là, que je vais vous remontrer. Le rebond de l'inflation, il n'est pas sous-jacent. Vous avez l'inflation nominale, avec toutes les composantes de l'inflation. Les plus importantes étant l'immobilier, les services... L'immobilier, les services, le prix de l'énergie, l'alimentation. L'alimentation ne rebondit pas, parce que le prix du blé est au tapis. Le prix du pétrole, oui, rebondit. Ça a fait rebondir une partie de l'inflation, d'une composante de l'inflation. Et encore, la contribution est juste moins négative. Alors oui, si le pétrole va à 90$, oui, ce sera inflationniste. Oui, il y aura à nouveau une contribution positive. Mais toutes les autres composantes, écoutez, je vais vous montrer ça. Comme ça, on évacue direct le sujet de l'inflation parce que ce n'est pas ce dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Vous avez ici, alors oui, la Fed de Cleveland nous dit que le CPI pourrait même remonter à 4% en août. Les chiffres seront publiés en septembre. Oui, très bien, mais lorsque vous regardez tout l'ensemble des composantes de l'inflation, ça, en fait, ce n'est pas une seconde vague d'inflation, c'est une stabilisation dans la désinflation. Pour vraiment avoir une seconde vague d'inflation ou un renversement haussier d'inflation, il faudrait un prix du pétrole qui explose à la hausse la résistance des 90-93$. Pourquoi ? La résistance des 90-93$, c'était la ligne de coup du double top ici. Donc, tant qu'on est en dessous, alors à part, la contribution est encore négative du prix du pétrole. Si jamais on allait dans cette zone-là, ce serait une contribution neutre, voire légèrement positive. Parce que regardez, hein, en septembre 2022, on était là. Donc, si là, en septembre 2023, on se retrouve ici, il y aura une contribution positive. Trueflation le montre bien. Regardez ce graphique où là, vous avez la courbe de la contribution du prix du pétrole au CPI. Alors, elle est encore à moins 10%. Elle contribue à hauteur de moins 10% de pourcentage dans le CPI. Mais voilà, si on remonte à 85-90$, ça va revenir à la ligne de zéro. Donc, c'est simplement... Alors, c'est vrai que ça pèse 19% dans le calcul de l'inflation. Mais toutes les zones composantes, l'alimentation-boisson, ça baisse. L'immobilier, ça baisse. C'est 23% l'immobilier. L'utility, ça baisse. La santé, ça baisse, etc. etc. Bon... Les services aussi, donc il y a, en tout cas la tendance est baissière, donc il y a un certain nombre de choses, moi, qui me font dire que, voilà, cette seconde vague d'inflation, je n'y crois pas. Par contre, un rebond de l'inflation, peut-être jusqu'à 4% en version nominale jusqu'en septembre, octobre, avant de repartir à la baisse, oui, dans ces cas-là, ok, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut 12 à 18 mois pour que un changement de cycle des taux d'intérêt se diffuse à l'économie réelle. Donc en fait, oui, là, le taux de la Fed est à 5,5, mais il est à 5,5 depuis un mois. Vous voyez, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment à partir de la rentrée de la fin de l'année qu'à l'économie réelle, qu'on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui arrivent au bout de leur ligne de crédit à partir là du T4, et sauf qu'elles avaient emprunté entre 0 et 1, là ça va être pas pareil. Comment ça va se passer? Est-ce qu'elles vont encaisser le choc ou pas? Est-ce qu'elles vont devoir licencier ou pas? Et si elles licencient déjà avec des consommateurs, je vous montrerai ça tout à l'heure, le taux les crédits à la consommation via carte bancaire aux États-Unis, le taux est à 20%. 20%. Et là, le taux de défaut explose. Il faut pas que ce salarié-là perde son job. Ah, ça va être chaud. Si déjà, il a du mal à rembourser avec son job. Donc voilà, c'est pour ça que tout prend du temps à se diffuser à l'économie réelle, mais peut-être que l'économie arrivera à y faire face. Résurgence de la crise bancaire US qui a donc relancé le débat sur la probabilité d'une récession en Occident. Alors l'agence Moody's a dégradé la note de crédit de 10 banques régionales américaines la semaine dernière et a alerté sur d'autres dégradations possibles de banques régionales de premier rang comme US Bancorp. Une semaine après la dégradation par Fitch de la dette souveraine des USA, c'est vraiment, pour moi, on est dans le débat sur la contagion de la remontée des taux d'intérêt et de leur valeur actuelle à l'économie réelle. Alors, On a bien vu que cela produisait déjà des ravages dans le secteur bancaire et immobilier. Le débat est relancé quant à une contagion au secteur industriel et des services. Et bien justement, cette semaine, vous avez la mise à jour, j'en parlais tout à l'heure, des ventes au détail aux États-Unis, baromètre de la consommation des ménages, et la mise à jour de la production industrielle, baromètre de l'investissement manufacturier. Donc effectivement, là, je vous remets l'actualité sur à propos de Moody's, qui était donc la semaine dernière. Et donc cette semaine, voilà les deux grosses mises à jour principales. Et là, vous avez eu donc la réaction sur le secteur bancaire. Je vous montre ça en direct, ce sera quand même plus propre. Donc tout d'abord, vous avez eu la semaine dernière, je vais vous montrer les indices sectoriels, l'indice sectoriel S&P 500 des valeurs bancaires. Là, vous avez le choc bancaire de mars 2023. Vous voyez qu'alors, si les banques du S&P 500 ont arrêté de chuter ici à l'époque, c'est parce que la Fed est intervenue. Là, vous voyez que la pente commence pas à être exceptionnelle. Je peux même vous montrer le graphique des banques régionales. Vous voyez qu'en fait, elles ont quand même les banques régionales américaines en bourse via cet ETF. On est très loin d'être remonté au point de départ. Donc, ça reste quand même touchy, ça reste quand même sous pression. Et c'est parce qu'elles sont en difficulté, ces banques. Elles sont en difficulté parce que il y a plusieurs choses. Déjà, elles peuvent avoir dans leur bilan des obligations qui se sont fait écraser à cause de la remontée des taux d'intérêt. Je vais vous remontrer la corrélation inversée entre cycle des taux d'intérêt nominaux et prix des obligations. Et si en plus de ça, elles prêtent de l'argent à des entreprises ou des consommateurs qui ne peuvent pas rembourser car endettés à taux variable et pire s'ils perdent leur job, voilà. Donc c'est pour ça que là, les agences de notation s'inquiètent. C'est pour ça. Et en plus, si ces banques tombent, certaines entreprises ne peuvent s'adresser qu'à ces banques moyennes pour des crédits. Et qui leur fera des crédits ? Et il faut absolument éviter cet effet domino. Mais la Fed est là pour l'éviter. Alors, donc, c'est vraiment le sujet du moment. Et donc, cette semaine, c'est ça que je voulais vous montrer. Cette semaine, vous avez donc la mise à jour. C'est, je crois, mercredi, des chiffres de la production industrielle aux États-Unis où on flirtait avec zéro depuis quelques mois. Et regardez, ça vient de passer sous zéro. Donc là, je vous montre à l'époque la récession de la bulle Internet, la récession de la crise financière, la récession de la crise sanitaire. Et là, c'est pour ça qu'on est au bord de la récession sans vraiment y être. De la même façon, les ventes au détail, on tutoie zéro depuis un certain nombre de mois. C'est pareil, on est posé sur zéro. Bon, vous voyez ce qui se passe dans la récession, la crise financière, la crise sanitaire. Donc, c'est à ce débat, je dirais presque sans fin, ou en tout cas récurrent, à ce débat de savoir si les taux d'intérêt actuels qui ont ravagé l'immobilier, ravagé le secteur bancaire régional américain, est-ce que ça va se diffuser à l'économie réelle classique, aux entreprises, aux consommateurs? Ces deux chiffres mis à jour cette semaine vont apporter un élément de réponse. Et bon, ils sont actualisés, bien sûr, ils sont actualisés chaque mois. Alors, taux d'intérêt du marché et prix des obligations, plus que jamais, c'est une opportunité de long terme. Alors, les ravages de la tendance et de la valeur absolue des taux d'intérêt et la forte hausse des défauts de paiement dans le crédit consommation par carte bancaire et certains emprunteurs immobiliers à taux variable rappellent que le niveau atteint actuellement par les taux d'intérêt représente déjà un énorme risque pour l'économie et que les banques centrales n'ont aucun intérêt à le faire aller au-delà. Alors elles peuvent rester au taux actuel pour briser l'inflation, mais elles n'ont aucun intérêt à aller au-delà, sauf si vraiment elles ont décidé de mettre l'économie au tapis pour tuer l'inflation. Mais bon, à un moment ou à un autre, ça, politiquement, je ne sais pas si ça passerait. Alors, ces fameuses banques régionales américaines, elles gèrent 65% des crédits des consommateurs US. Elles ont déjà subi 29 milliards de pertes, soit 29 milliards de pertes justement sur ces histoires de défauts, donc d'emprunteurs qui ne remboursent pas en grande partie parce que à taux variable ils ne peuvent plus suivre, et c'est donc une hausse des défauts de 75%. Le sujet c'est quoi? C'est que la Fed elle a bien conscience que le niveau actuel des taux est devenu dangereux pour l'économie. Alors elle pourrait abandonner le critère absolu, c'est-à-dire qu'elle pourrait dire j'ai atteint le taux terminal à 5,50 pour basculer exclusivement sur le critère durée. C'est-à-dire qu'elle ne se concentre plus sur la valeur absolue de son taux, mais plus sur la durée pendant laquelle elle va laisser le taux. Et l'idée, ce serait de laisser les taux plusieurs mois à 5,50, le temps que le CPI sous-jacent, donc qui ne tient pas compte du pétrole, je vous rappelle, tombe sous 2%. Dans tous les cas de figure, le prix des obligations est toujours en bottomisation de long terme. Alors là, je vous montre justement quelques, les chiffres un peu qui sont tombés la semaine dernière, la hausse de 75% des défauts en particulier donc sur les cartes de crédit. Et ici, regardez ce que je vous montre. Ici, je vous montre l'évolution du taux d'intérêt du crédit à la consommation par carte bancaire aux États-Unis. Regardez l'envolée, ça a fait x2. Donc, on veut bien comprendre pourquoi certains consommateurs sont en difficulté. C'est le moment, il faut pas vendre toutes ces actions. Il y a des secteurs, il y a du stock picking et tout. Moi, je dis simplement, il faut augmenter le poids relatif du marché obligataire. Parce que déjà, le krach obligataire, il est derrière nous. Alors, quand on est tout en bas, on ne peut pas tomber. Alors, qu'est-ce qui pourrait... Un nouveau krach obligataire, c'est impossible. Mais éventuellement, d'aller chercher un peu plus bas sur le prix des obligations. Ça serait cette fameuse seconde vague d'inflation. Mais une seconde vague d'inflation. Alors que l'économie est en train d'être brisée, là, par les taux d'intérêt... Ce serait une inflation purement énergétique, c'est quoi? C'est une guerre mondiale? Oui, d'accord, ok, j'abandonne. Et encore, en guerre mondiale, croyez qu'on reste sur les actions? Bon, j'exagère un peu, mais à un moment ou à un autre, il y a le côté aussi aversion pour le risque. Alors, les flux peuvent effectivement quitter les actions et aller en cash, 100% en cash, ils ne sont pas obligés d'aller sur les obligations. Enfin, ne partons pas dans les cas extrêmes comme ça. Vous voyez, moi j'aime bien discuter avec vous, je pars un peu dans tous les sens. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que l'unique cas de figure qui reporterait mon scénario de rebond du prix des obligations, qui est stable, hein, il est stable depuis 6 mois. Et entre-temps, on touche des coupons en plus. Bon, enfin, c'est une fois par an. Hein, pour certains types d'obligations, il y a plein de types d'obligations. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais ce serait quoi? Ce serait une seconde vague d'inflation, un rebond de l'inflation vers 4,5, 5%, qui contraindrait la Fed peut-être à aller à un taux terminal à 6%. Elle ne peut pas vraiment aller au-delà, elle tue l'économie, elle met en faillite toutes les banques régionales. Mais imaginons qu'elle aille à 6 et qu'elle utilise son bilan pour contrebalancer les effets de ses taux. Ce qu'elle a fait en mars avec son plan d'urgence pour les banques régionales américaines. Là, effectivement, le prix des obligations irait chercher encore un poil plus bas. Mais pour moi, ça reste une opportunité. Je vais vous montrer les graphiques. Les graphiques. Bon, là, je voulais pas faire une vidéo spéciale sur les obligations, mais je me suis lancé. Donc, écoutez, on continue. Il faut aussi que je vous parle des actions. Mais voilà, pour moi, le prix des obligations, il est en phase de bottomisation. Je vous rappelle que c'est une stratégie de moyen-long terme. Donc, ça sert à rien de regarder les graphiques tous les jours, toutes les semaines, en disant ça n'a pas bougé, c'est au même prix ou c'est un peu plus bas. On s'en fiche. L'idée, c'est rendez-vous en 2025. Et donc voilà, alors là j'ai choisi justement l'obligation longue à 20 ans du Trésor public américain et le Bund allemand. Les deux pour moi sont en phase de bottomisation. Et je vais arrêter de dire ce terme franglais là, qui ressemble à rien, mais je vous les remontre ici. Donc on va aller voir déjà, nous allons déjà aller voir le Bund. Le Bund. Alors, voilà, je vous fais alors déjà, voilà, pour moi, nous sommes dans la cinquième. Tout est hyper classique. Là, c'est le krach obligataire entre 2021 et 2022, du fait de la remontée des taux d'intérêt. Je vous renvoie vers mes vidéos de corrélation inversée entre le cycle des taux d'intérêt nominaux et le prix des obligations. Première vague, une 2, une grande 3, une 4. Nous sommes dans la vague 5, qui en plus a une forme classique en biseau descendant, avec une belle divergence haussière. Après avoir retracé 50% de tout le bull market depuis 30 ans, voilà, en 50% en arithmétique. Bon, en fait, moi, j'ai pas de sujet. C'est l'opportunité. C'est acheter le Bund maintenant. J'ai aucune inquiétude. Alors, même à horizon 6 mois, j'ai aucune inquiétude. Alors, à horizon 2 ans, pour moi, on est là. Hein, donc, voilà, passer de 130 à 150, je vous laisse se calculer en pourcentage. Je peux prendre le TLT, pareil, hein, l'obligation longue US. C'est exactement la même chose. Alors, oui, on est dans la cinquième jambe de baisse. Elle peut peut-être aller encore un peu plus bas, et encore, moi, je n'y crois pas. Mais voilà, on est au bout du krach obligataire. Et ça, j'insiste, ça, je n'ai pas changé d'opinion sur ce sujet. Ce graphique, je trouve ici encore beaucoup plus parlant. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise à acheter ça que d'acheter le SP500 tout en haut. Après, chacun fait ses choix. Chacun, bien sûr. Ensuite, chacun fait ses choix en âme et conscience, comme on dit. Donc, voilà, alors je continue, j'en étais où, moi ? Perspective de bénéfices et valorisation, le marché action est-il déconnecté de la réalité ? Alors, la saison des résultats du T2, oui, alors c'est vrai que c'était ça le titre de la vidéo. Est-ce que le marché action est déconnecté ? La saison des résultats du T2 n'a pas vu d'explosion haussière des avertissements sur résultats et sur chiffre d'affaires. Il y a eu des petits profit warnings, mais c'est rien d'incroyable. Moi, je vous rappelle qu'il faut du temps pour que les hausses de taux d'intérêt se diffusent à l'économie, 12 à 18 mois, et donc que progressivement, elles viennent égratigner les marges des entreprises, ne serait-ce que lorsqu'il va falloir renouveler les lignes de crédit à des taux 4 ou 5 fois plus élevés. La seule façon d'éviter ce scénario noir pour les entreprises et le marché actions serait une baisse rapide des taux d'intérêt des banques centrales. Or, vous avez compris que ce n'est pas prévu de si tôt, eu égard à la résilience de l'inflation, et en plus avec le rebond du prix du pétrole. Alors, une question. Comment expliquer que les anticipations de bénéfices soient encore autant déconnectées de cette nouvelle réalité des conditions de financement? Eh bien, regardez-moi ces anticipations de bénéfices. Je vous les montre. Voilà, je vous les montre. Voilà. Voilà. C'est les analystes financiers, ils ont un mindset hyper optimiste. Voilà, pour eux, ça va exploser à la hausse malgré les nouvelles conditions de crédit. Écoutez, ils auront peut-être raison, mais moi, ça me paraît quand même un peu exagéré. Alors, certains me diront, oui, le marché est pas cher. Je vous montre ici le price earning ratio forward. Le PE forward, on est à 19, on n'est pas cher, alors qu'on était à 40 avant la crise sanitaire. Oui, mais ce PE forward, il n'est pas cher parce qu'on anticipe des bénéfices hyper élevés. Là, c'est le rapport entre le prix des bénéfices. Si les bénéfices estimés sont attendus en forte hausse, oui, là, c'est pas cher. Mais si on se trompe, mais c'est ça la question que moi je vous pose. C'est ça la question que je vous pose. Et si il se trompait sur les anticipations de bénéfices? Pourquoi forcément les voir de manière verticale haussière? Pourquoi pas être plus nuancé? S'ils ont raison, c'est vraiment qu'on a des économies capitalistes capables de s'adapter de manière incroyable à ces nouvelles conditions de financement. Et là, ce serait vraiment super. Dans ces cas-là, oui. C'est un scénario qui, moi, me semble minoritaire. Hein, mais bon, les scénarios boursiers ne sont que des questions de probabilité. En tout cas, les gérants du marché actions ont mis le curseur sur l'optimisme. Moi, je suis un optimiste. Mais même moi qui suis un optimiste, je me dis, ils exagèrent un peu quand même, vous voyez ? Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est, voilà, ça fait vraiment partie des choses qui me semblent importantes. La Fed ne peut pas pivoter avant 2024, c'est un enjeu de crédibilité. Il faut bien que vous ayez conscience de ça. Alors, par rapport aux obligations, il y a pour moi quelque chose qui est acquis. Le pump des obligations, pour reprendre un terme du milieu crypto, se fera en trois étapes, car là, vous avez compris, elles sont en bas, ça ne bouge pas. Première étape, le premier pump quand il y aura une quasi-certitude du taux terminal de la Fed. Il y aura ensuite un second pump lorsqu'il y aura une quasi-certitude du pivot de la Fed. Et enfin, un troisième pump éventuel en cas de récession avec un flight to quality des actions vers les obligations, un déplacement des flux de capitaux des actions vers les obligations. Mais au final, c'est la corrélation inversée au taux du marché qui reste la clé. Quant au pivot de la Fed, il est peu probable qu'il ait lieu cette année, davantage au premier semestre 2024, et même si le taux de chômage devait monter. Même si le taux de chômage devait monter, il faut d'abord tuer l'inflation, c'est une question de crédibilité. Et même si, imaginons que la Fed, elle veuille abandonner sa cible d'inflation à 2% et la mettre, je ne sais pas, à 3 ou 4 pour être tranquille, elle est d'abord obligée de ramener l'inflation à 2%. C'est une question de crédibilité. Alors, la stabilité bancaire, la croissance, l'emploi, elle peut gérer ça avec son bilan, en attendant de briser l'inflation. Et donc, voilà, les anticipations pivot de la Fed, de toute façon, il n'est pas attendu avant 2024. Hein. Donc, voilà, et vous voyez que c'est une histoire de durée. Le taux terminal est peut-être atteint à 5,50, mais voilà, on peut rester 4, 5, 6 mois, peut-être plus, à ce taux des 5,50, le temps de vraiment ramener l'inflation tout en bas. Alors attention, la Chine s'est très liée aux indices européens, la déflation en Chine et la chute du commerce extérieur, une raison de plus d'équilibrer son portefeuille boursier européen. Alors il y a quand même une chose, c'est que la Banque centrale de Chine mène une politique monétaire ultra accommodante. Viendra le moment où cette politique monétaire ultra accommodante reboostera l'économie chinoise. En attendant, je vous rappelle ici le lien différent entre le marché actions américain et européen avec la Chine. Vous voyez très bien la différence. Il y a moins de 40% des entreprises du SP500 qui ont leur revenu à l'international, contre 78% pour le CAC 40. Pour le seul DAX, le DAX réalise 20% de ses ventes en Chine. Le SMI, 85% de ses ventes à l'étranger. Le secteur du luxe du CAC 40, c'est 32% avec la Chine, uniquement pour LVMH, L'Oréal, Kering et Hermès. Donc là, on voit à quel point il y a un lien avec la Chine pour ces indices boursiers européens. Et bon, écoutez, voyez la dynamique du commerce extérieur chinois. Là-bas, en Chine, le PPI et le CPI sont négatifs. Donc voilà. Alors, même si la politique monétaire ultra accommodante vient finir par contrer tout ça, vous avez quand même pour l'Allemagne, les fameux 20% du commerce qui sont avec la Chine. Bon, moi je dis prudence, c'est une raison plus d'aller plutôt sur le Bund que sur le DAX, surtout lorsqu'on voit que le DAX est au contraire. Même, il peut peut-être aller plus haut, peut-être, mais moi je parle de ratio rendement risque. Il y en a un qui est tout en haut et un qui est tout en bas. Je préfère celui qui est tout en bas. Alors maintenant, le marché action, voilà. Moi j'ai absolument pas la certitude chartiste que la tendance haussière du marché action soit terminée. Vous voyez, donc même si je défends les obligations, je défends un rééquilibrage. Le marché action ira peut-être plus haut. C'est possible. C'est tout à fait possible. Tant que j'ai le prisme de l'analyse technique, tant que j'ai pas mon signal de renversement baissier chartiste, je suis la tendance. Même si là on retrace, ça reste dans le cadre d'une construction technique haussière. Donc je vais vous reprendre le S&P 500, vous expliquer à nouveau les scénarios Elliottistes et vous dire en dessous de quel niveau là c'est fini et où on repart en crack. Mais tant qu'on est au-dessus, c'est pas le cas. Donc voilà, le sujet c'est le bull market du marché action est-il déjà terminé ou faut-il davantage de temps pour que la hausse des taux d'intérêt se diffuse et vienne stopper la tendance haussière du marché action. Donc on va regarder plusieurs éléments, l'aspect quantitatif, les vagues d'Elliott, c'est parti, on passe directement sur la plateforme. Alors donc, oui, pour le SP500, je vous rappelle le débat est là, vous l'avez en donné hebdomadaire. Soit le marché est dans une vague B, dans le cadre d'une correction en flat, A, B, C. Dans tous les cas, si c'est une correction en flat, avant de rentrer en bear market, il faut d'abord qu'on revienne ici. Soit le marché a déjà fait son point bas ici, et on serait dans une grande 3 haussière. Voilà. Alors, je ne sais pas si la grande 3 est terminée. Là, on a fait, pour la 2, on a fait un flat, running flat. Là, il faudrait qu'on fasse un zigzag. Mais je ne sais pas si elle est terminée ou si simplement on est dans la 4, 2, 7, 3. Ou est-ce que vraiment on a commencé la grande 4? Bon, dans tous les cas, l'hypothèse du zigzag, pour moi, elle ne tient plus depuis qu'on a dépassé les 61,8 de retracement, les 78,6 de retracement. Alors maintenant, oui, il y a des divergences à court terme. Clairement, je vous l'ai montré la semaine dernière, le marché retrace et a besoin de retracer, ne serait-ce que parce que le réservoir des acheteurs est complètement rempli, ne serait-ce que parce que le marché s'est approché de la zone de surachat quantitatif, lorsqu'on regarde le pourcentage des actions supérieures à la moyenne mobile à 50 jours, mais c'était le même cas pour le pourcentage des actions supérieures à la moyenne mobile à 20 jours. Donc oui, il y a effectivement encore de l'espace pour retracer, pour épurer les divergences. Mais maintenant, le vrai sujet, on la voit ici, la belle divergence encore à épurer. Où est-ce qu'on est? Alors, pour moi, voilà, là où j'hésite, c'est là. J'hésite ici, je vais passer en plein écran. Si ici on est dans une grande B, donc là j'ai sous-divisé, est-ce que la C de la B est terminée? Si on est dans une grande 3, est-ce que la grande 3, elle s'est terminée ici? Et on aurait commencé la grande 4, où on pourrait retracer jusqu'à 4002, ou est-ce que nous sommes en fait que dans la 4 de la grande 3? Et moi, j'aurais plutôt tendance à croire ça. Du coup, si nous sommes uniquement, j'espère que vous me suivez encore, dans la 4 de la grande 3, eh bien, on ne retrace jamais davantage plus que 38,2 à 50% de la 3. Donc, voilà, on pourrait revenir juste ici, 4350, avant de repartir à la hausse. Ça serait aussi dans la constitution de la C de la grande B, hein, vous avez bien compris, la C de la grande B, bon, là, plus personne ne me suit, mais moi je me suis. Voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, on reste, et vous voyez pourtant, hein, je parle surtout des obligations, mais je l'admets, même si là on retrace et que je pense qu'on peut encore retracer davantage, on peut même aller jusqu'à 4350, 4330 avant de repartir à la hausse, je pense que, tant qu'on est au-dessus de ces 4330, on reste en bull market. Par contre, voilà, si on devait casser 4330, là, je pense que vraiment, c'est terminé. Alors, pour certains, ce serait la cassure des 4200 points qui mettrait un terme au bull market et qui déclencherait un nouveau crack comme l'année dernière. Pourquoi? Parce que ça serait le haut de la vague 1 et jamais une grande 4 n'enfonce un top de 1. Donc, voilà. 4002 ou 4330, au choix, mes chers amis, et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, d'après vous, est-ce que le marché action est déconnecté de la réalité? Merci à toutes et à tous.